Ben, bonjour à toutes et à tous. On va terminer notre cycle de table ronde sur la lutte contre le racisme en milieu rural que nous organisons avec le soutien de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, droit des demandeurs d'asile, lutte pour l'inclusion, discrimination religieuse. La lutte contre le racisme a été abordée sous différents angles mettant en valeur les associations du territoire. Après avoir parlé de l'inclusion, nous allons nous intéresser à un cas plus spécifique et aborder la question de l'insertion professionnelle, une nouvelle fois avec des associations miavoises. Pour en parler, nous sommes avec Angelina de Myriade. Bonjour.
Bonjour.
Et également avec le Jardin du Chéron, nous sommes donc avec Nadine Boisson, sa directrice. Bonjour.
Bonjour.
Et Saïd, bonjour.
Bonjour.
Je vais laisser le Jardin du Chéron peut-être se présenter brièvement avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet autour de l'insertion.
Donc le Jardin du Chéron, enfin je pense que vous connaissez pour beaucoup, donc c'est un chantier d'insertion par l'activité économique. Donc en fait on fait du maraîchage biologique, c'est l'activité qui sert de support, mais l'objectif du jardin c'est pas de faire des légumes à la base, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver le chemin de l'emploi, si j'ose dire, voilà. Donc ça c'est notre activité principale. Donc au niveau du public qu'on accueille, on a à peu près 35 aides maraîchers et on a 10 permanents pour les accompagner. Et parmi les salariés qu'on a donc au niveau du jardin, on a des gens de toute origine. Bon, alors on a des gens d'origine française, mais on a des gens de toute origine. Et c'est aussi pour ça qu'on est concerné par ce type de réflexion. Voilà. Et donc je suis venue accompagnée de Saïd, qui a fait un passage au jardin et qui maintenant n'est plus au jardin et parce que il a trouvé du boulot. Donc il vous témoignera de tout ça tout à l'heure. Je trouvais plus pertinent que ce soit quelqu'un qui en parle parce qu'il l'a vécu. Voilà.
Si tu veux, du coup, te présenter un peu, Saïd.
Bonjour, je m'appelle Sadati Saïd Meskin. Je suis d'origine afghan. Je suis venu en France le 21 juillet 2019. Et après les démarches administratives, j'ai eu le récépissé. Et puis, je me suis engagé au Jardin du Chéron en tant qu'un employé. J'ai travaillé le 1er mars 2020 jusqu'à 1er mars 2021 pendant un an. Et puis, la tannerie pêche d'eau, ils avaient besoin du monde. Et, je suis allé là-bas, j'ai fait une semaine de stage et ce travail, ça m'intéressait. Et j'ai passé le CACES, ça veut dire le conducteur chariot élévateur, et depuis 1er mars 2021, je travaille en tant qu'un conducteur chariot élévateur à la tannerie Poche d'eau.
Eh ben, merci Saïd. Donc peut-être Nadine, tu peux revenir un peu plus en détail sur ce qu'est un chantier d'insertion.
Oui. Pour revenir un peu plus en détail sur ce qu'est un chantier d'insertion, donc c'est vrai qu'on a des personnes qui travaillent au jardin, donc qui produisent des légumes. Donc on est quand même un producteur de légumes et il y a des gens très bien qui viennent les cuisiner en atelier cuisine, n'est-ce pas Marie-Vonne ? Voilà, donc on a cette activité-là, mais vraiment l'idée c'est en fait que les gens puissent venir travailler dans cette activité et que en même temps on les accompagne sur toutes leurs démarches, sur tout ce qui va permettre de reprendre le chemin de l'emploi. Donc, Saïd pourra peut-être en retémoigner, mais c'est vrai qu'en fait, pendant son passage au jardin, on l'a accompagné sur un certain nombre de points administratifs, même s'il était très débrouillard par lui-même. Mais bon, ça lui a permis aussi d'avoir des liens. Il a retravaillé le code, il a pu passer le permis. Donc, mine de rien, c'est vrai aussi que le fait de passer au jardin, ça permet d'avoir un revenu, parce que c'est ça. Nous, c'est des salariés qui sont payés, pas sous-payés, ils sont payés, certes cosmiques, mais ils sont quand même payés. Donc, ce qui fait que ça permet de retrouver une stabilité financière qui a permis d'acheter la voiture. Je me rappelle de la voiture quand il l'a achetée. Voilà. Et comme ça, de retrouver une certaine stabilité financière. Donc, ensuite, c'est vrai que le rôle qu'a le jardin, en fait, c'est vraiment accompagner les personnes jusque vers ce retour vers l'emploi. Donc souvent, ça va passer par des temps où les personnes vont faire des stages, vont réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, des stages, éventuellement des formations dans certains cas. Donc on peut faire des formations au jardin, mais il peut y avoir des formations aussi spécifiques. Et suite à ces différents éléments, c'est ce qui permet éventuellement de revenir vers l'emploi. Donc aujourd'hui, je vous disais qu'on a à peu près 35 salariés. On arrive à peu près à avoir 60% de ce qu'on appelle de sorties positives, c'est-à-dire des gens qui soit reviennent vers l'emploi. Alors là, le nec plus ultra, c'est la situation de Saïd avec un CDI à la clé. Bon, ça nous arrive en partie, mais pas tout le temps, malheureusement. Mais après aussi des contrats plus courts ou de la formation. C'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre de salariés qui partent vers de la formation qualifiante, pas de la formation juste de quelques jours. Voilà.
Donc on est également avec Myriad pour cette table ronde sur l'insertion professionnelle. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour ce cycle de table ronde, peux-tu réexpliquer un peu ce qu'est Myriad ? Ouais, tu peux la laisser se présenter, oui.
Bonjour, je m'appelle Claire, je suis salariée à Myriad depuis 2 ans. Je travaille donc avec Angelina à la passerelle. Et donc on est en mission d'accueillir plutôt principalement les adultes, hein, et moi je suis sur une mission aussi d'accompagnement de familles aussi. Voilà.
Concrètement, Myriad, c'est un lieu d'accueil, d'accompagnement de tout public. Je vais encore parler de Passerelle, qui est le lieu de vie à Myriad. Donc, Passerelle, c'est l'espace de vie sociale. Hein. C'est vraiment l'accueil de jour où on accompagne les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, autour justement d'activités collectives. Donc, l'activité principale, c'est essentiellement nos cours de français, les ateliers sociolinguistiques. Il y a aussi toutes les activités collectives autour de la cuisine, autour de des activités sportives, de nos ateliers d'informatique, de code de la route, et bien d'autres, je ne vais pas m'apesantir. Il y a aussi toutes les activités autour des enfants, l'accompagnement à la scolarité qui est dispensé par notre collègue Cyril. Claire, ma collègue. Il y a aussi notre collègue Mariem qui, elle, est en insertion à la cuisine de Myriad. Donc tous les vendredis, quand vous venez acheter du pain, des repas solidaires et même des pâtisseries, et bien c'est Mariem, notre collègue, qui fait toutes ces bonnes petites choses. Il y a aussi Nathalie, notre coordinatrice, qui s'occupe de tout ce qui est de l'accompagnement au titre de séjour. Il y a notre collègue qui, elle, a fait de l'accompagnement administratif. Et on a aussi deux autres nouvelles collègues qui, elles, sont en service civique.
Et donc, peux-tu également revenir, du coup, sur les actions que vous faites en particulier pour aider à l'insertion des personnes en termes d'insertion professionnelle ?
Oui. Alors, on a plusieurs choses à Myriad. Le premier, c'est on a notre collègue Mariem, donc, qui est en contrat d'insertion. C'est un CAE-PEC, donc contrat d'accompagnement pour l'emploi.
Oui, c'est ce qui a remplacé les fameux contrats aidés.
Voilà, c'est ça. Et donc elle est sous ce contrat-là. Dans ce contrat, il y a un temps de formation qui est obligatoire. Donc c'est pour elle, c'est de la formation sur aux ateliers de français. Elle a, si je me rappelle bien, à peu près 7 heures par semaine de cours de français. Elle a un accompagnement également à l'insertion. Donc elle est on met en place des outils éducatifs et un accompagnement éducatif afin de favoriser un apprentissage des codes culturels français, des codes du travail aussi. C'est vrai que c'est pas toujours évident de bien comprendre le fonctionnement du planning, des heures. Si j'ai fini mon travail, pourquoi je vais faire quand même 7 heures dans la journée au lieu de 5, pourquoi je viens pas bosser le dimanche matin si je passe devant l'association. Ouais, c'est des choses qui prennent du temps et qui lui permet après. Nous, on voit ce contrat-là comme un tremplin qui lui permettra après d'être embauché par ailleurs dans une autre structure. Et les personnes qui sont embauchées en CAEPEC, c'est des personnes qui, ce sont leur premier emploi en France et qui ne parlent pas très bien encore le français. Et donc, ça leur permet d'apprendre tous ces codes et d'apprendre le français. Il y a des cours de conversation, d'alphabétisation qui sont obligatoires et qui sont dans son temps de travail. Voilà pour Mariam. Et ensuite, on fait d'autres ateliers.
Oui, au-delà de votre salarié, du coup, en contrat aidé, vous faites d'autres actions aussi en termes d'insertion aussi pour vos bénéficiaires, pour les personnes qui viennent à l'association.
Tout à fait, ouais. On fait tous les ateliers qu'on propose sont en vue d'une insertion socio-professionnelle. Donc les ateliers de français, les ateliers d'informatique où c'est vraiment apprendre à créer une boîte mail, comprendre à quoi ça sert, etc. Les codes de la route, les ateliers de mobilité qui permettent d'arriver à bouger sur le territoire et qui permettent de comprendre aussi les points où les employeurs sont placés sur le terrain, enfin sur un territoire et de savoir comment y aller. Et après les ateliers, après on utilise aussi des outils techniques de recherche d'emploi pour aider et accompagner les personnes, les bénéficiaires et les personnes qui veulent accéder à l'emploi. Donc on accompagne sur la création de CV, de lettres de motivation, de recherche d'emploi également, principalement, c'est ça.
Eh bien, merci.
Oui. Vas-y, je te laisse.
Pour compléter ce qu'a très bien dit Claire, nous avons aussi deux collègues en service civique, en sachant que
qui sont donc pas des salariés mais des volontaires.
Exactement, qui sont des volontaires en service civique, mais ce sont nos collègues, elles font partie justement de l'association, sachant qu'avec avec ces volontaires, on met en place aussi un accompagnement vers un emploi, vers un projet professionnel. Donc ce sont des volontaires, mais on a aussi un objectif justement de les autonomiser, de les accompagner vers un projet, vers leur projet professionnel.
Donc de l'insertion à tous les niveaux en fait.
Exactement. Exactement. Je pense que ce soit Myriad ou même que ce soit Ocheran, d'ailleurs, on travaille beaucoup ensemble. Hein. On est d'accord pour dire qu'effectivement, l'insertion, c'est à tous les niveaux et surtout, on adapte aussi nos accompagnements aux personnes.
Et maintenant, pour en revenir un peu, pour préciser un peu sur quel type de public vous intervenez, aussi bien au Jardin du Chéran que chez Myriad, vous intervenez sur les mêmes publics ou des publics un peu différents?
Différents, pas forcément, hein, parce que en général, on a des personnes qui viennent du Chéran ou des personnes qui viennent à Myriad qu'on oriente vers le Chéran. Tout à l'heure, on parlait de maillage associatif. Je pense justement que le Chéran est un partenaire important justement sur tout ce qui concerne l'insertion et la formation. Et on a comme ça des relations privilégiées. On rencontre des personnes qui vont aux deux associations.
T'es d'accord avec ça, toi aussi,
oui,
Nadine?
Oui, tout à fait d'accord. Ben, c'est vrai qu'après, bon, nous, on relève du travail, c'est vrai que ben, il va y avoir des règles, notamment il faut absolument que nous les gens aient un titre de séjour. On peut pas embaucher quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, donc ça c'est un impératif. Et c'est vrai aussi que par rapport à la langue, on est quand même obligé toujours d'avoir des gens qui déjà ont acquis un certain niveau de langue. C'était pas du tout le cas de Saïd, comme il était interprète pour l'armée française, il parlait très bien le français. Mais c'est vrai quand même qu'il nous faut des gens qui parlent un minimum le français, parce qu'après c'est trop compliqué au niveau du jardin, parce que les consignes ne sont pas comprises, etc. Donc c'est compliqué. Mais par contre, bon, on a eu travaillé régulièrement avec Myriad sur les formations au FLE, etc. Enfin, France langue étrangère et tout ça. Et nous, les gens, pendant leur passage au jardin, ont une formation de langue étrangère aussi. Hein, pour ceux qui en ont le besoin, quoi. Ça y est, il n'y avait pas besoin à l'époque.
Et sinon, donc, de par vos activités en matière d'insertion, via vos structures respectives, vous êtes confronté à la question des discriminations à l'embauche?
Alors, c'est évident hein, qu'on a des situations où, en tout cas, on le pense qu'il y a une discrimination qui se fait aussi.
Oui, c'est toujours très dur à prouver.
Voilà.
Mais
Oui, oui, voilà, c'est toujours le même problème, hein, c'est que c'est pas forcément à prouver. Après, il y a aussi, moi je m'aperçois aujourd'hui qu'on a des employeurs qui sont aussi dans une position inverse. C'est-à-dire qu'ils disent, les gens que vous, dans des situations comme a pu avoir Saïd ou comme d'autres personnes, ils sont dans un tel besoin de s'en sortir que c'est des gens qui lésinent pas, quoi. Ils savent qu'ils sont à l'heure, ils savent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il y a même des entreprises qui nous disent, vous savez, ça va très bien, hein, les gens d'origine étrangère, on sait qu'ils vont être fiables, quoi. Hein. On sait qu'ils vont être fiables, parfois plus que d'autres, hein, sans vouloir faire de... Voilà, donc c'est vrai que, bon, il y a des choses qui évoluent et tout ça, mais forcément, c'est sûr qu'il y a certainement des moments où il y a des discriminations qui s'opèrent. Après, nous, on peut avoir une discrimination rien qu'en disant Jardin du Chien. Vous savez, le mettre sur un CV aujourd'hui, c'est peut-être pas toujours super valorisant au premier abord. Après, à nous aussi d'expliquer ce qu'est le Jardin du Chien.
Enfin, pourtant, les personnes ont travaillé pendant ce temps,
tout à fait.
Leur passage au
mais
jardin.
Mais là aussi, il y a des entreprises qui évoluent. Quand on discute avec elles, disent, oui, mais ils sont passés chez vous, donc on sait qu'ils ont appris à être à l'heure, que vous les loupez pas par rapport au retard ou n'importe quoi, qu'ils ont appris à être à l'heure, qu'ils ont appris à travailler en équipe, tout ça. Et donc, ça, ils le savent. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a des métiers qui sont quand même très durs, hein, travailler dans le front, travailler dans la chaleur, tout ça. Donc c'est vrai qu'après un passage en Chiron, on sait que les gens sont assez courageux quand même, hein, en général. Enfin, je sais pas, vous pouvez peut-être en témoigner par rapport à ce passage.
Après, c'est vrai qu'au Jardin du Chiron, après, il y a l'assistante sociale qui aide les gens quand ils arrivent au jardin, quand ils commencent à travailler. Et en fonction de leur métier, et ils trouvent du travail. Après, on a des... Pendant l'hiver, il y a moins des activités et on a plusieurs stages et plusieurs formations. On a la formation tracteur, on a la formation estime soi et formation des plans. Voilà, et c'est quelque chose. C'est une association. D'intégration. C'est au début, quand je suis arrivé, après le quart de séjour, j'ai travaillé en temps partiel. C'était demi-journée et ça me permet de repasser mon permis de conduire et de faire les démarches administratives à la préfecture, à la CAF, à l'assurance maladie, tout ça. Et après, c'est l'assistant social de Chiron qui m'a trouvé ce travail à la tannerie Peugeot. Ils m'ont proposé et je l'acceptais. J'ai fait une semaine de formation à la tannerie Peugeot. C'était pris en charge par le jardin. Et ils ont vu que je suis activé, je suis motivé et je travaille bien. Et au niveau de français, je me débrouille bien. Et ensuite, j'ai passé le CACES, le permis de charrue élevateur. C'est passé 2 jours. Depuis le 1er mars 2021, je travaille en tant qu'en contrat CDI. À la tannerie Peugeot. Au niveau des enfants, j'ai 4 enfants. Quand j'ai travaillé au Chiron, j'ai eu le 4e enfant. J'ai 3 garçons et le 4e, c'est une fille. Donc, voilà.
Parce que le Jardin du Chiron, c'est pas que du maraîchage, il y a autre chose autour. Hein.
Ah ben oui, enfin le maraîchage c'est un support en fait. Hein. On discutait tout à l'heure avec une personne qui disait vous feriez des matelas, ça serait pareil. Bon, c'est pas faux hein, sur le principe, on pourrait faire des matelas et ça serait pareil et ça aurait le même. Mais effectivement, le gros du travail, il est d'accompagner les personnes dans le quotidien, dans le travail d'équipe. Ça, c'est vrai que c'est très important aussi hein, de réapprendre à travailler en équipe, de travailler travailler en collectif, d'apprendre à maîtriser ses, voilà, ses sautes d'humeur à des moments, ou de savoir gérer la différence d'idées. Hein. On a parfois quelques tensions parce que ben, les idées ne sont pas toujours les mêmes entre tout le monde, mais il faut apprendre à gérer ça. Et ça, c'est vachement important quoi, aussi. Hein. C'est qu'ils apprennent aussi ça. Quoi. Puis je pense que c'est une moyenne d'intégration aussi pour des personnes peut-être un peu comme Saïd qui étaient arrivées, qui n'avaient pas depuis très très longtemps. Ben, en fait, c'est toute une équipe. Quoi. On est, voilà, je vous ai dit, on est 45 au total. Donc ça veut dire que c'est des collègues. Bon, il y en a qui se voient co-chérant, mais il y en a qui se voient en dehors. Et ça crée tout un tissu social aussi. Il y a énormément d'entraide aussi entre les personnes. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est en difficulté, c'est rare que les copains d'à côté, ils essaient pas de trouver une solution, etc. Quoi. Donc, c'est ça aussi, hein. C'est aussi une vie globale. Voilà.
Et donc, pour en revenir à la question de la discrimination, je vais me tourner maintenant vers Myriad pour savoir si vous, comme vous accompagnez un certain nombre de bénéficiaires, est-ce que la question de la discrimination à l'embauche est quelque chose auquel vous êtes confronté par rapport aux personnes que vous accompagnez ?
Ben pas vraiment. Enfin, nous, c'est vrai qu'on n'a pas de suivi réel sur leur recherche d'emploi. Nous, on donne les pistes, hein, les ressources. Après, c'est vrai que les personnes qu'on accompagne, c'est vrai. Enfin, on n'est pas trop au courant de ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Non, je saurais pas trop dire.
Plutôt que de la discrimination, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas trop de retours concernant tout cela. Disons qu'en premier lieu, c'est beaucoup plus l'appréhension que les personnes ont déjà d'aller vers, parce que c'est le parcours des fois il est compliqué.
Pour entamer la démarche,
c'est beaucoup plus d'appréhension de se dire ah ben mince, j'ai trouvé du travail, il faut que j'y aille, il faut que je m'impose un rythme, il faut que j'ose aussi aller vers. Donc c'est beaucoup plus cette difficulté-là d'un nouvel environnement avec des personnes qu'on connaît pas, hein, qu'on va apprendre à découvrir aussi. Et c'est aussi sortir de sa zone de confort. Donc c'est beaucoup plus de l'appréhension, mais après, on n'a pas de retour et en général, ça se passe super bien. Et pour ceux qui ont trouvé du travail, en général, ils vont dire, bah, tiens, tu sais, l'annonce que j'ai vue, ben, c'était superbe et ça marchait. C'était que ce soit aussi bien un intérim ou alors un job saisonnier. Ah ben tiens, ça s'est bien passé. Et ben, l'année prochaine, peut-être que. Et c'est comme ça que ça se fait.
Et donc, c'est un suivi aussi sur du long terme ou c'est de manière ponctuelle dans la recherche que vous intervenez auprès de vos bénéficiaires ?
Disons que... Peut-être que tu veux répondre, Claire. Disons que c'est sur du moins c'est sur le long terme même, hein, mais l'objectif c'est vraiment faire en sorte que les personnes soient autonomes dans leur démarche, dans leur travail et dans tout ce qu'elles souhaitent pour elles. Disons que comme j'ai toujours, enfin c'est très imagé, mais j'ai toujours coutume de dire qu'en fait nous ne sommes juste qu'un phare dans la nuit, et ce qu'en fait la personne arrive à un moment donné où elle était dans l'obscurité, on a juste donné les billes pour qu'elle continue d'avancer, elle avance, nous on reste en soutien et elles reviennent des fois nous dire ben tiens ça marchait, c'est bien, ou alors c'est pas bien, il faut tout recommencer de zéro, et nous on est là à chaque fois qu'il faut, et des fois les personnes ont juste besoin d'encouragement, se disant mais peut-être que c'est juste une habitude à prendre. Des fois quand on va au travail, que des fois le collègue n'est pas du matin, qui parle pas, pour certaines c'est perturbant. Donc en disant mais c'est aussi ça le travail, vivre avec les appréhensions, vivre avec les humeurs des uns et des autres. Aussi on est beaucoup disons qu'on est beaucoup plus dans ce que j'appellerais de l'empowerment, et c'est vraiment être un soutien pour les personnes. Après, les personnes font.
Oui, le but c'est quand même qu'elles trouvent leur autonomie après.
Exactement, exactement. On est vraiment là en soutien, mais après c'est elles qui font le reste. Pour certaines, elles reviennent nous dire, ben tiens, ça s'est bien passé. Et pour d'autres, elles continuent leur chemin, et on se dit, ben si elles sont pas revenues, ben c'est que peut-être, comme on dit, pas de nouvelles bonnes nouvelles, et que là, elles sont parties, elles se sont fortifiées et qu'elles ont suivi la route. Et là, on se dit, mais chouette, ça marche. Et quand ça marche, on se dit, mais c'est pas grave. On y retourne et on recommence. Et on recommence autant de fois que possible.
Et vous en accompagnez beaucoup les personnes à l'année sur ces démarches d'insertion professionnelle ?
Alors à Myriad, on accueille à peu près 150 familles au total en adhérents, et après sur des démarches j'aurais du mal à quantifier, mais c'est vrai qu'on essaie de tenir un journal de bord sur le nombre de CV qu'on fait avec les personnes, tout ça à la louche, je dirais une cinquantaine de personnes voilà, qu'on accompagne sur des démarches administratives, enfin liées à l'emploi, ou il y a aussi, c'est vrai, le soutien psychologique qu'on fait avant des entretiens.
Ou au-delà de la technique, voilà. Il y a aussi toute cette partie d'accompagnement pour s'y préparer, en fait.
Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Mm-hmm.
Et donc, maintenant, je vais me retourner vers toi, Nadine, par rapport au jardin du
chien. Quand même, oui, sur ce que vous disiez, c'est vrai que nous, on est le SAS peut-être un peu après, parfois. C'est-à-dire que parfois, on va être le SAS entre la situation où on n'avait pas d'emploi, etc., et le vrai emploi classique, etc. On va être une phase intermédiaire qui, effectivement, permet aux personnes de prendre confiance en elles. Et ça, je crois que c'est essentiel, parce que souvent, il y a des gens, ils ont du vécu, hein, ils ont travaillé dans différentes, mais ils ont pas la confiance que ça peut se réutiliser ici, etc. Donc ça, c'est le temps de prise de confiance qui est quand même très très important, que les gens prennent confiance. Et c'est aussi, par contre, sortir de sa zone de confort, parce que la problématique parfois qu'on a avec les personnes qui, notamment, ne maîtrisent pas trop la langue, c'est que dans leur milieu, ils ne parlent que leur langue, et donc la difficulté d'apprentissage ne fait que s'accroître, parce qu'en fait, ils ne pratiquent pas autrement. Alors par contre, là, nous, sur ce sujet-là, on n'est pas très très simple, c'est-à-dire que au jardin, t'es au jardin, je veux plus entendre autre chose que du français. Pas pour créer de la discrimination, mais t'es là pour apprendre le français. Et donc, c'est vraiment aussi cette phase-là qui est importante. C'est sortir de ce confort-là de toujours parler une autre langue, etc. Et c'est un sas obligatoire. Donc, à un moment donné, ben oui, on les fait sortir de leur zone de confort par rapport à ça. Et ça, c'est ce qui aussi leur permet de prendre confiance et de voir que, bah, oui, ils peuvent aller vers le vrai emploi et vers un employeur en toute confiance, quoi.
Oui, parce que au-delà de l'insertion professionnelle, c'est aussi une démarche d'intégration qu'il y a au Jardin
de Chiron. Tout à fait, oui. Ça permet aussi cette démarche d'intégration, voilà, et d'oser après, voilà, ben, dès que les personnes maîtrisent mieux la langue. Et c'est vrai que le fait de parler en travaillant, on acquiert quand même beaucoup plus vite, quoi. Bon, les cours, c'est très bien, etc., mais c'est aussi en pratiquant et le fait d'être obligé de comprendre ce que, parce que sinon, nous, on devrait être plus que multilingue, je vous le dis, parce que vu le nombre de langues différentes qu'il y a au jardin, on aurait du mal, hein. Mais donc c'est vrai qu'il faut, ben, apprendre à comprendre les consignes, à les traduire, à reposer une question si on n'a pas compris. Et donc ça oblige, là. Et c'est ça qui est important.
Parce que de la même manière qu'à Myriad, au Jardin de Chéron, c'est aussi un lieu de rencontre.
Au-delà de la question de travail. Oui. Alors c'est vrai que c'est un lieu de rencontre. Bon, déjà entre eux, hein, beaucoup entre eux. Et c'est vrai que il y a des passerelles qui se font. Voilà. Alors parfois ceux qui parlent la même langue, bon, ben, forcément à la pause, on les lâche, ils se lâchent un peu, quoi. Hein, mais bon, ça, on, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même un lieu à ce niveau-là. C'est vrai aussi que ça peut être des moments aussi avec des adhérents, avec d'autres personnes qui interviennent. Bon, on a beaucoup de bénévoles qui interviennent. Voilà. Hein.
Je t'amène le micro, Marie-Vonne.
On a des bénévoles qui interviennent. On peut avoir des gens aussi qui partent faire de la vente et qui, de fait, se retrouvent aussi dans la situation de devoir parler avec des clients. Et dès qu'on peut aussi, dès que quelqu'un se sent suffisamment à l'aise, éventuellement, on les met dans la situation de la vente où là, vous avez, alors, ce qui est le plus joli, c'est quand vous avez quelqu'un au hall qui parle pas tout à fait bien français et où c'est la personne, la cliente qui lui dit, non, c'est pas tout à fait ça, c'est comme ça qu'on dit. Mais très gentiment, sans jugement, sans rien, mais c'est très positif, quoi. Et Marie-Vonne, je pense qu'effectivement, tu peux en témoigner de ça.
Oui, il y a ça, par exemple, mais j'ai un autre témoignage que je trouve très intéressant aussi et qui a sa portée positive pour l'intégration. J'ai passé la journée avec une personne qui cuisine actuellement au jardin, voilà, du Chéron, et qui m'a bien aidée dans les ateliers, bien sûr. Et donc dans les ateliers où il y avait une grande convivialité, on va dire, avec les personnes qui suivaient l'atelier, le Carlos qui est à la cuisine et moi-même. Et Carlos a évoqué son projet. qui est un projet de pâtissier, donc j'en dirai pas plus parce que ça lui appartient. Mais donc, et il a aussi évoqué les difficultés qu'il a. Il est espagnol, donc enfin européen, mais il a quand même des difficultés à trouver tout ce qu'il lui faut sur le domaine français, à savoir où aller chercher des choses, etc. Donc, dans la discussion, il a été lancé une idée de soutien pour qu'il trouve le matériel dont il a besoin plus facilement. Donc, c'est apporté de tous les adhérents, en fait, aussi du jardin. Mais ça pourrait être apporté aussi de toutes les personnes qui ont envie de visiter ou envie d'aider à travers les différentes associations du territoire. Et toutes celles qu'on a vues ici, par exemple.
Tu parlais de la cuisine, Marie-Vonne, parce que la cuisine, c'est aussi, comme on le disait dans la précédente table ronde, un véritable vecteur aussi d'intégration, de rencontre. Parce que chez Myriad, c'est également quelque chose que vous faites. La cuisine comme vecteur d'intégration.
Tout à fait, oui. La cuisine, c'est hyper important à Myriad. Donc, il y a effectivement Mariam qui est en contrat d'insertion. Elle, ça lui permet vraiment de pouvoir acquérir des compétences qu'elle n'avait pas à la base, et puis de continuer et puis aussi de transmettre. C'est ça qui est important à Myriad, c'est que la cuisine, c'est vraiment un lieu ouvert et où tout le monde peut venir pour juste observer, discuter et mettre la main à la pâte. C'est vraiment, ça peut être 5 minutes ou 1 heure. Et donc, elle transmet, mais elle apprend plein de choses aussi des autres adhérents. Et autant bénévoles que personnes qui bénéficiaires, entre guillemets, peuvent accéder à la cuisine et puis partager, échanger. Et c'est ça qui est chouette à Myriad. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on fait aussi une partie vente, et puis aussi on va sur, par exemple, on intervient des fois à la Maison du Peuple pour vendre des soupes du monde ou des plats du monde, et ça c'est hyper chouette pour les gens qui ont cuisiné, de venir présenter leur plat, de venir le vendre, de venir parler de ce qu'ils ont mis dedans, de leur culture, et de pouvoir témoigner. C'est hyper intéressant, en plus ils ont tout le temps des super retours sur leur soupe, et voilà, ça se passe à la Maison du Peuple, mais on intervient aussi sur d'autres endroits sur le territoire Miavois. Et ça, c'est hyper chouette, qu'ils puissent vraiment se mettre devant et promouvoir leurs produits, leur culture.
Oui, d'ailleurs, merci Quentin, c'était là-dessus que je voulais rebondir sur la cuisine, parce que ce que je vois dans vos deux associations, c'est qu'il y a ce lien et ce rapport à la cuisine, en tous les cas à la nourriture, qui est un enjeu quand même un peu fondamental, autant que la solidarité et que l'accueil, et c'est aussi un enjeu qui va être de plus en plus important, je pense, la solidarité, l'accueil, la nourriture, la production de nourriture. Et donc voilà, et dans le fait de produire à manger, ça concerne tout le monde, de cuisiner, ça concerne tout le monde, c'est aussi un moment de convivialité, de partage de sa culture aussi, parce que chaque pays a sa culture culinaire, et ça permet de le partager. Et voilà, je trouve que c'est chouette de voir ça dans vos deux associations, et que je sais aussi qu'il y a pas mal de projets de cantines solidaires qui se créent un peu partout. Donc voilà, je voulais juste réagir là-dessus par rapport à vos deux associations.
Merci. Et donc, au Jardin du Chéran, la cuisine, c'est quelque chose que vous faites régulièrement aussi ?
Oui, alors en fait, il y a deux choses. Alors, on avait un peu arrêté les ateliers cuisine, histoire de Covid, puis accessoirement, on n'avait pas trop un bâtiment. Alors donc, maintenant, nous avons un bâtiment, donc ça va beaucoup mieux. Mais c'est tout frais, quand même, c'est tout frais. Donc, c'est vrai qu'on avait un peu arrêté. Bon, nous, après, donc on fait des ateliers cuisine parfois ouverts aux adhérents. Et après, on a des adhérents qui sont pas différents des autres, mais un profil un peu particulier, c'est qu'on a des personnes qui bénéficient d'un panier dit solidaire, c'est-à-dire c'est un panier à prix plus faible, qui sont exactement les mêmes paniers que les autres, mais pour lesquels on a retrouvé des financements extérieurs et qui permettent à des personnes en situation de précarité d'avoir un panier à 2 euros au lieu d'un panier gagner à 10 euros. Et donc ces gens-là ont droit à des ateliers et donc font des ateliers cuisine. Donc après-demain, il y a un atelier cuisine qui se fait sur le à ping-pong avec et donc où ça va être mixte adhérents et adhérentes des paniers solidaires. Donc ça sera une bonne occasion. Et après, nous, la cuisine, effectivement, au niveau du jardin, tous les jours, il y a un repas qui est préparé par des salariés et qui fait à manger pour les autres salariés qu'ils souhaitent. Et on fait un repas à 2 euros. Hein, voilà, c'est pas pour le coup, mais avec nos légumes, avec nos produits. Et ce qui est effectivement super, c'est que alors il peut y avoir tout type de personnes. Alors actuellement, par exemple, on a Hamid qui s'est mis à la cuisine, donc on goûte aux produits afghans, enfin aux préparations afghanes. Et bon, et c'est vrai que c'est génial parce que souvent ils sont d'une fierté de nous présenter. Alors quand ils osent le faire, parce que parfois ils osent pas nous faire leur propre préparation, etc. et tout ça, mais quand ils osent le faire, c'est génial parce qu'en fait on a des produits de toute origine. Et là où c'est bien aussi pour eux, c'est qu'ils découvrent des légumes qu'ils n'avaient jamais utilisés. J'ai discuté avec Carlos tout à l'heure de « Dis-moi, la patate douce, je ne l'avais jamais fait en purée. » Et là, l'autre jour, j'ai appris à faire en purée. Donc, qui apprend aussi, lui, de son côté. Enfin, voilà, et c'est vrai qu'autour de la cuisine, c'est très riche. Alors, quand je disais tout à l'heure que faire des matelas, on aurait pu aussi réparer des matelas, mais je suis pas tout à fait d'accord. Ça aurait pas été la même.
Il y a pas tout à fait la même convivialité voilà. Non plus, alors, le même partage.
Il y a
partage.
Pas la même convivialité et puis il y a plus que ça. C'est vrai que l'avantage de produire des légumes en plus en bio, voilà, les salariés ils voient de la petite graine jusqu'à aux légumes et ils vont même être amenés à le vendre par eux-mêmes. Donc il y a énormément de fierté d'avoir produit un produit. En plus, un produit sain, un produit qui va nourrir. Moi, je vois les salariés quand ils préparent des produits pour la cuisine centrale ou autre pour les gamins de bio. Ben voilà, je pense qu'ils sont fiers de ce qu'ils font, fiers de proposer ce produit, et c'est aussi valorisant pour les personnes. Donc, je pense que voilà, ce lien-là, c'est pour ça que c'est pas pareil de faire des matelas. Voilà.
Oui, non, mais c'est aussi parce que le but du chantier d'insertion, c'est aussi de permettre aux personnes de retrouver confiance en elles aussi.
Tout à fait. Ouais, ouais. Et d'avoir quelque chose, enfin, produire quelque chose de noble du début jusqu'à la fin et tout ça, je pense que c'est très positif, quoi. Puis de voir le résultat de son travail quand on voit. Qu'on a semé une petite graine et qu'au final ça devient une courge ou ça devient autre chose, ben voilà, on est fiers de ce qu'on fait, quoi.
Exactement.
Voilà.
Tu parlais des paniers solidaires.
Ouais.
Parce que, donc, vous aidez des personnes déjà en difficulté d'insertion, mais vous aidez aussi, donc, d'autres personnes qui, elles, sont en pleine précarité.
Oui, oui, oui. Ça après, bon, on a un conseil d'administration. Enfin, on est une association quand même très active et puis avec des gens très à la tête qui tiennent vraiment à ce que les choses avancent. Et donc la solidarité, elle est à tous les niveaux.
Oui, quoi,
voilà. Et donc donner l'occasion à des gens de pouvoir manger des légumes de qualité et apprendre à les cuisiner et tout ça. Enfin. D'une autre manière, parce que souvent les gens savent très bien les cuisiner, hein, quand même globalement, mais apprendre à les cuisiner différemment, apprendre les bienfaits de certains légumes, etc. Mais c'est vrai que c'est très positif. Après, la solidarité, elle, c'est aussi distribuer. Enfin, tous nos excédents sont partent au Resto du Cœur, au CCAS, ou
ah oui, vraiment solidarité jusqu'au bout. Donc,
bah, de toute façon, il n'y a pas de raison de pas le faire. Hein, franchement, enfin voilà, il n'y a pas de raison de pas le faire. Et puis, franchement, pour ceux qui travaillent et qui font les légumes, il y aurait rien de plus triste que de les voir jeter au compost. Quoi. Alors, ça peut arriver de temps en temps. Eux-mêmes en bénéficient. Hein, les salariés ont tous les excédents, etc. Bien sûr, ils peuvent en bénéficier. Mais c'est vrai que c'est toujours personne ne serait d'accord pour les voir jeter. Voilà, donc autant faire bénéficier tout le monde. Hein.
Donc je vais me tourner vers le public s'il y a des questions ou peut-être des témoignages pour compléter un peu ce qu'on dit. Oui, Marie-Vonne, je vois ta main se lever.
Oui, je tiens quand même à souligner que le jardin du Chéran. Combiné avec la cuisine centrale, enfin à bénéficier de soutien, d'un soutien assez généreux globalement, et la mairie a été très présente, hein, ça on peut le dire quand même, on lui doit bien ça, dans toutes ces démarches, que ce soit l'intégration du bio dans cette cuisine centrale, ou que ce soit la mise en relation aussi, voilà. Donc voilà, c'était un point très positif pour cette petite ville.
Moi, c'est un petit témoignage pour montrer que bah, produire des légumes, c'est pas tout à fait pareil que les matelas, en effet. Je retourne en arrière d'un an au moment du confinement, où le jardin du Chéran n'a pas arrêté parce que c'était un métier utile. Et j'ai en mémoire quelqu'un qui en était extrêmement fier d'avoir participé à cette aventure-là et de ne pas avoir été confinée parce qu'elle était utile aux autres par ce métier-là.
Ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai que... Saïd, vous l'avez vécu aussi, vous, le confinement. C'est vrai que ça a été une extrême fierté des salariés de continuer à travailler, d'assumer, etc. Et ça a été très bien renvoyé par les gens. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont venus au jardin pour acheter et tout ça. Donc, les gens souvent témoignaient en disant « quand même, c'est super ce que vous faites, vous continuez à bosser et tout ça ». Et c'est vrai que voilà, les salariés étaient vraiment très fiers de ça, mais ils étaient aussi heureux de venir travailler, parce que ça leur a aussi évité, dans certains cas, de se retrouver parfois en solitude, en tout seul, etc. Le fait de venir, d'être tous ensemble, tout ça, ça a permis de passer le confinement beaucoup plus facilement.
Mais l'importance de la sociabilisation, encore une fois.
Voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les chantiers d'insertion, mais pendant cette période-là, on a perdu personne. C'est-à-dire qu'on a personne qui est resté au bord de la route, qui a disparu de la circulation et tout ça. Je ne sais pas, bon, peut-être vous pouvez en témoigner.
Pendant le confinement, comme les gens, les ouvriers du jardin du Chéron, comme on travaillait à l'extérieur, on n'était pas enfermés, on n'était pas sur le même toit, donc comme on a travaillé à l'extérieur... c'est pour ça qu'on pouvait continuer à travailler, mais on avait respecté les consignes, on apportait les masques, même quand on était un peu près à côté, mais dans les chambres quand on a travaillé, on a respecté toujours un mètre et demi la distance entre chacun, et on avait la fierté de travailler et de cultiver des légumes bio, et c'était très intéressant.
Oui, toi, t'en tires une belle expérience de ce que t'as pu vivre au Jardin du Chéran. C'était une expérience positive dans ton parcours.
Oui, bien sûr, comme vous savez, Millau, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de travail, et moi, je suis arrivé directement à Millau et je me suis inscrit à Randstad, à Manpower, tout ça. Et finalement, je suis orienté vers le jardin du Chéron par Pôle emploi. Et quand j'ai commencé à travailler au jardin du Chéron, ma vie s'est tout à fait changée.
Parce que des portes.
Exactement, il m'a ouvert la porte, alors que moi j'ai pas fait la demande d'asile parce que je suis venu en France par les visas français délivrés par l'ambassadeur de France à Kaboul, par monsieur Martinon, David Martinon. Et quand je suis arrivé à Millau, au début je me suis perdu un peu au niveau d'administration, parce que moi, je voulais faire demande d'asile et mes camarades qui sont en France, il a dit les demandes d'asile pour les gens qui n'ont pas des papiers. Et moi, je suis venu par les visas. Et après, à la préfecture, j'ai montré mon visa et ils m'ont donné un formulaire de demande de carte de séjour. Je l'ai rempli et ensuite, j'ai eu un quart de séjour d'un an. Et puis à Millau, il y a la maison du combattant. J'ai ramené tous mes papiers. Et quand j'étais traducteur avec l'armée française de 2006 jusqu'à 2013, et la maison du combattant, ils ont envoyé mes papiers au bureau de l'ONAC de l'Aviron. ONAC, ça veut dire... Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et après, ils ont envoyé tous mes papiers à Paris. Et à Paris, et ils ont décidé de me donner une carte du combattant. Et grâce à la carte du combattant, quand j'ai renouvelé ma carte de séjour, j'ai eu 10 ans. 10 ans.
Et... C'est à partir de cette carte de séjour que tu as pu travailler du coup au Jardin du Chéran. C'est une fois que tu as eu cette carte de séjour que tu as pu aller au Jardin du Chéran.
Non, non, j'étais, à cette époque, j'étais encore là. J'étais encore là et ça veut dire que pendant que j'étais au Chéran, tout est changé, en fait. Dans ma vie, j'ai eu la carte de séjour, et j'ai eu le, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu le permis de conduire. Tout est changé. Alors que j'avais... moi, je voulais travailler, vraiment, je voulais chercher du travail et de travailler. J'ai pas trouvé beaucoup de travail. J'ai fait 3 mois de formation au Tacos Avenue. J'avais 3 enfants. J'ai gagné 400 euros par mois. J'avais demandé le RSA et j'avais pas le droit. Et c'est pour ça que quand je suis rentré au Jardin du Chéran, c'était toute ma vie s'est changée, quoi. C'était très j'ai progressé beaucoup plus et plus rapidement.
Voilà. Et ça t'a permis aussi du coup de trouver du travail et d'avoir un véritable travail stable à la sortie en plus.
Bien sûr, oui, oui. Comme je disais tout à l'heure, quoi, il y a une assistante sociale au jardin qui s'appelle Laura. Et il aide les gens en fonction de leur métier. Ils cherchent, ils trouvent du travail. Et moi, j'ai dit que je veux travailler dans une usine, que ce soit un contrat CDI, n'importe quel travail que ce soit, je peux le faire. Et ils m'ont trouvé ce travail et j'étais très ravi, très content. Après, le Jardin du Chéran, c'est une association qui aide les gens de trouver du travail, mais je pense qu'au-delà de 2 ans, ils ont pas le droit de rester plus de 2 ans. Mais il y a du travail. Ici en France, même à Millau, il y a du travail. Il faut que les gens ils bougent un peu. Il y a du travail.
Eh bien, merci Saïd.
Merci à vous.
Et donc, on va peut-être prendre encore une ou deux réactions de la salle avant de terminer cette table ronde, s'il y en a.
Juste une réflexion qui est peut-être un peu hors sujet, parce que je voudrais dire que dans tous les parcours qu'on a évoqués pendant ces 4 tables rondes, il a été beaucoup question des personnes qui demandaient des papiers. Et quand on demande des papiers, on n'a pas le droit de travailler. Et il faut attendre d'avoir un récépissé qui autorise de mettre le pied à l'étrier. Et bon, évidemment, c'est des parcours tellement longs que pendant ce temps-là, il faut bien vivre. Et je ne sais pas si c'est une discrimination, mais en tout cas, la loi est comme ça. Et ça pousse évidemment les gens à faire du travail au noir, ce qui n'est pas formidable non plus. Et ben c'est tout le problème qui peut durer pendant des années comme ça, avant d'avoir l'autorisation officielle de travailler.
Oui, bah, parce que même au Jardin du Chéran, on peut pas être sans papier et venir travailler.
Tout à fait. Alors je devrais pas trop le dire quand même, mais ça nous arrive. Mais en ayant rencontré la personne, en ayant vu son projet professionnel, parfois de faire une promesse d'embauche qui va déclencher les papiers et permettre qu'on embauche la personne.
Donc, ah oui, la promesse d'embauche permet quand même de déclencher...
Voilà, ça peut parfois favoriser. On a embauché plusieurs personnes qui ont eu d'abord ce passage-là, qui leur a permis après de rebondir et tout ça. Mais bon, on ne le fait pas systématiquement. Malheureusement, c'est vrai que ce qu'on regrette un peu, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a plus d'une centaine de candidatures par an, hein, aujourd'hui, pour le jardin, pour une 20 ou 30 places. Donc, ça veut dire qu'on recrute, qu'on sélectionne. Alors, pas sur le professionnel, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment sur les besoins des personnes et sur les difficultés qu'elles peuvent avoir et surtout leur motivation. C'est vrai que, par exemple, quand on a rencontré Saïd, on s'est dit, oui, bon, il a envie vraiment de s'en sortir et on va être là pour ce qu'il faut, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est regrettable de voir, malheureusement, que, notamment sur la région de Millau, on a quand même il y a d'énormes besoins et qui, malheureusement, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et c'est jamais une partie de plaisir de faire un recrutement et de dire, bon, ben, toi, oui, il y a la place, et toi, il n'y a pas la place pour tout de suite. Alors, on essaie de faire au mieux, mais c'est pas toujours facile, hein. Voilà.
Eh ben, merci à tous les quatre. Peut-être une dernière question, ou sinon on va conclure cette quatrième table ronde. Donc, on arrive au terme de cette quatrième et dernière. Oui.
Non, c'était juste une remarque pour compléter ce que disait Marie-Yvonne tout à l'heure. C'est pour parler de Carlos. Alors, il fait de super bons gâteaux.
Ah, mais oui, en plus, c'est vrai qu'il va à Myriade. Oui. C'est là où on voit que souvent les gens sont. Oui, c'est vrai qu'il va à Myriade. Il me l'a dit plusieurs fois.
C'est là qu'on voit l'interassociatif aussi, voilà, qui existe sur le territoire.
Oui.
Et juste pour ce sera le, peut-être que Claire tu voudras compléter, mais en tout cas ce sera mon mot de la fin. Peut-être effectivement dans le parcours de d'accompagnement à l'insertion, à Myriade du moins, je pense que c'est aussi le cas au Jardin du Chéran. Comme je disais, le maillage associatif est important, hein. Ça ne se fait pas, on n'agit jamais tout seul dans son coin. On a des partenariats très appuyés et très approfondi aussi avec d'autres acteurs justement qui œuvrent dans l'insertion et l'accompagnement. Je pense surtout à Tremplin pour l'emploi, bien évidemment, et à l'organisme institutionnel qui est incontournable, Pôle emploi aussi, hein, vers qui on oriente souvent très régulièrement des personnes et vers qui les personnes reviennent vers nous, tout simplement parce que on parlait de l'outil informatique tout à l'heure. Aujourd'hui, tout est dématérialisé et des fois c'est compliqué pour une personne d'entrer sur son espace Pôle emploi, d'y mettre son CV et de rédiger, comme disait Claire tout à l'heure, son CV ou sa lettre de motivation. Donc, je pense que le maillage associatif, il est important. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi.
Mais il faut le souligner, ce maillage.
Voilà. Il faut le souligner, c'est important, mais en sachant que je pense que nos associations, hein, aussi bien au travers de nos partenariats via les paniers solidaires ou tout simplement dans l'insertion, font un travail qui souvent n'est pas valorisé comme cela se devrait. Je reviens toujours à la même question. On manque de financement, on manque de visibilité, on manque de bénévoles. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, je relance un appel, s'il vous plaît, donnez-nous des sous.
Et toi, Saïd, tu voulais aussi réagir?
Non, je voulais parler juste pour les gens qui ont pas le droit de travailler. En fait, les gens de l'étranger qui viennent en France et qui n'ont pas des papiers et qui viennent, qui passent par les passeurs des gens, qui viennent par les bateaux, tout ça. Dès qu'ils arrivent en France, ils vont déposer leur demande d'asile à l'OFI, Office français d'immigration et intégration. Après, ils vont orienter vers le CADA, c'est le CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Le CADA qu'on avait notamment dans une précédente table ronde.
Exactement, ils seront logés là-bas, et après ils vont avoir un rendez-vous à l'OFPRA à Paris, et ils vont examiner leur dossier, et ça prend énormément du temps, ça peut prendre un an ou deux ans, et c'est pour ça que c'est vrai que une fois que la réponse sera positive, ils vont avoir une récépissé et une autorisation du travail. Et dans ce cas-là, qu'ils peuvent venir au jardin pour travailler. Voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter. Merci.
Non, mais c'est important parce que assez peu connaissent même ce parcours du demandeur d'asile qui est assez complexe et que peu de personnes en dehors du milieu associatif connaissent en fait. Donc ce sera, je pense, le mot de la fin de ce cycle de table ronde, parce qu'on arrive au terme de cette quatrième et dernière table ronde qui portait donc sur l'insertion professionnelle. Merci à nos intervenants, donc Angelina et Claire pour Myriade, merci à vous.
Merci.
Merci également à Nadine et Saïd pour le Jardin du Chéran.
Merci.
Merci également à vous. Merci.
Merci.
Merci de nous avoir invités. C'était.
C'est donc la fin de ce cycle de tables rondes sur la lutte contre le racisme en milieu rural, organisé par Radio Larzac avec le soutien de la DILCRA, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Concernant l'insertion professionnelle, Radio Larzac accompagne également de jeunes demandeurs d'emploi en leur permettant de faire des CV audio qui sont diffusés sur les ondes du lundi au samedi à 18h30 grâce au soutien de la région Occitanie et de la mission locale de Millau. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces tables rondes. Un grand merci également aux associations du territoire pour leur participation et à très bientôt sur les ondes.